Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est aujourd'hui que s'ouvre à Cannes le 64e Festival international du film, dont le jury est présidé cette année par Robert De Niro. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent, c'est une atmosphère unique. La croisette hérissée de bannières, arborant des palmes d'or. Il y a souvent du vent à Cannes, ce qui fait que tout ça flotte, évidemment. Des photographes plus ou moins accrédités qui traquent des visages plus ou moins connus, souvent moins que plus du reste. Les voitures aux couleurs du festival qui sillonnent la ville en roulant un petit peu trop vite exprès. Prêt pour donner un peu d'effet, évidemment, à leur déplacement. Tout ça reliant des hôtels où s'entassent les professionnels, où se négocient d'innombrables contrats. Et puis, bien sûr, pour les détenteurs d'un badge, du sacro-saint badge,
On
a tout un nuancier, la possibilité d'enchaîner les projections des plus courues aux moins attendues.
Alors, 64 festivals, quand on sait que le premier remonte à 1946, ça paraît pas très logique. En effet, si on fait le calcul, cette édition devrait être la 66e.
Oui, sauf que le festival n'a eu lieu ni en 48, ni en 50. Du reste, si l'histoire de l'événement, de cet événement annuel, commence juste au lendemain de la dernière guerre, vous allez voir que ses racines puisent plus loin. À la veille du conflit, c'est en effet à la fin des années 30 qu'un petit groupe de personnalités, dont certaines assez inattendues, a eu l'idée de créer un festival de cinéma en France.
Et le coup d'envoi a même eu lieu avant la guerre.
Disons qu'il a failli avoir lieu. On devait y présenter notamment Le Magicien d'Oz de Victor Fleming et L'Enfer des Anges de Christian Jacques. De grandes stars d'Hollywood, dont Gary Cooper et Tyrone Power avaient fait le voyage. Simplement, le festival devait se dérouler tout début septembre 39. Et la guerre a été déclarée, évidemment, juste à ce moment-là.
Alors, si vous avez des questions adressées à Franck Ferrand et à ses prestigieux invités, n'hésitez pas, vous connaissez maintenant la marche à suivre, le site internet d'Europe 1 ou la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Oui, on devrait aujourd'hui appeler ça Au cœur de la légende.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Pour vous parler de Cannes, aujourd'hui je vais faire un détour par Venise et vous emmener dans la cité des Doges en 1937. C'est une Venise à l'époque en pleine Mostra, on est en septembre 37. La Mostra, c'est cette exposition, je dis bien exposition internationale du cinéma qui avait vu le jour en 1932. À cette époque, la Mostra est encore une manifestation un peu balbutiante, un petit peu chaotique, assez informelle disons. Mais la France est comme toujours assez soucieuse de son image à l'étranger et elle a donc constitué une commission, c'est la direction française des Beaux-Arts qui a eu cette idée, une commission qui sélectionne les films présentés à la Mostra de Venise. En 1937, les représentants de la dite commission sont, pour la profession, un certain Georges Lourot, qui est un producteur qui a continué d'ailleurs son métier jusque tard après la guerre, et puis, pour l'État, un certain Philippe Erlanger. Oui, c'est bien le Philippe Erlanger dont je vous parle si souvent. C'est bien cet auteur populaire d'histoire, grand chercheur et remarquable vulgarisateur. C'est bien le biographe de Richelieu, de Charles VII, de Marie Stuart. Vous voyez comme quoi l'histoire peut mener à tout parfois, à condition d'en sortir un tout petit peu. Nos deux représentants peuvent être fiers, car en cette année 37, la France, si l'on ose dire à propos d'une récompense qui va bientôt s'appeler le Lion d'Or, taille la part du lion. Le grand prix est remis à Carnet de Bâle de Julien Duvivier et le jury a créé spécialement un prix pour récompenser aussi La Grande Illusion de Jean Renoir. Vous savez, dans le film de Renoir, il y a cette scène où on voit une sentinelle allemande qui, au dernier moment, s'abstient de tirer sur le prisonnier français qui est en train de s'évader. Et pour les autorités nazies, ça, c'était tout à fait inacceptable. D'une façon plus générale, Mussolini et Hitler apprennent avec colère cette double récompense attribuée au cinéma français. À leurs yeux, le cinéma fasciste s'est hissé à des hauteurs inégalables. Il n'est pas normal que les Français puissent concurrencer de près ou de loin le cinéma, en tout cas allemand. Goebbels se permet du reste de protester officiellement. Résultat, l'année suivante, en septembre 38, On est là à 3 jours des funestes accords de Munich. Le jury de la Mostra fait amende honorable. Le choix des membres s'était porté a priori sur un film américain. Seulement, pour éviter un nouvel esclandre, on préfère changer d'avis et on décide de primer finalement le film de Leni Riefenstahl, Les dieux du stade, qui est une apologie de l'esthétique nazie. En soi, ça peut être regardé comme un chef-d'œuvre, Les dieux du stade du reste, mais ça n'aurait jamais dû être primé pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'un documentaire et non pas d'une œuvre de fiction. Or, les statuts de la Mostra disent bien que la récompense n'était censée aller à des œuvres de fiction. La décision provoque donc un tollé dans les rangs des démocraties. Les États-Unis, aussitôt imités par la Grande-Bretagne, comme souvent, déclarent qu'ils boycotteront désormais Venise. Quant à la délégation française, elle a été carrément choquée par le scandale. Le 3 septembre, Philippe Erlanger, complètement abattu, on l'imagine, reprend donc son train pour Paris. Il est très inquiet, évidemment, de la crise internationale. On est en pleine annexion de la Tchécoslovaquie par le Reich. Tout le monde est convaincu à ce moment-là qu'on est vraiment à deux doigts de la guerre. Mais en route, sans doute parce qu'il a encore toutes les images de la Mostra à la tête et puis parce que ça lui permet, c'est un dérivatif, il faut l'imaginer dans son compartiment couchette, il a une idée un peu moins sombre, qui comme ça germe dans son esprit. Après tout, se dit-il, si les Anglais et les Américains désormais boycottent le festival de Venise, pourquoi ne pas créer dans le monde libre un autre festival ? Alors, il y pense et quand il arrive à la gare de Lyon, son idée est faite, il en est convaincu, c'est la bonne idée. Dès le lendemain, parce qu'Erlanger est un homme extrêmement efficace, il est dans le bureau du secrétaire général du gouvernement auquel il expose son idée. L'État donne son accord sans trop de difficultés, la profession suivra, reste à convaincre les manias de la première industrie cinématographique du monde à l'époque, c'est-à-dire les manias d'Hollywood. Les représentants, le représentant d'Hollywood à Paris, c'est Harold Smith. Il reçoit Erlanger et Louro et il est tout de suite assez enthousiaste. Dès lors, tout va s'enchaîner. Il faut bien sûr développer l'idée, la coucher sur le papier, la soumettre au ministre concerné. C'est Jean Zay pour l'éducation nationale et Albert Sarraut pour l'intérieur. Et au niveau gouvernemental, on peut dire que là, l'idée coince un peu parce qu'on vient juste de signer les accords de Munich et la ligne à suivre dans le gouvernement d'Aladi à l'époque, c'est de pas trop fâcher Hitler. Alors si j'en crois Philippe Erlanger, tout ça s'est fait néanmoins sans trop d'encombre et c'est peut-être tout simplement le lot, vous savez, de ces idées qui, en tout cas une fois qu'elles sont exprimées, apparaissent comme de véritables évidences, elles avancent toutes seules. Reste à trouver la ville idéale pour accueillir un tel événement. Alors là, il y a 3 noms qui sont avancés. Biarritz, qui est le premier nom, et on a bien failli avoir le Festival international du film à Biarritz, Cannes, pour son soleil évidemment, et puis Alger. Alger, ça présenterait un certain nombre d'avantages, mais ça se révèle assez vite trop peu accessible. Donc Erlanger va visiter les 2 autres villes, Biarritz et Cannes, et sans hésiter, son choix se porte sur cette dernière. Du reste, il faut savoir que dans son esprit, il s'agirait de faire de la Côte d'Azur une sorte de Californie française, et de Cannes le Hollywood gaulois. C'est ça l'idée. On devait même installer de grands studios à Cannes, etc. Il y en a eu, mais qui étaient assez modestes. Encore une ambition arrangée au magasin des rêves brisés. Ainsi va voir le jour le Festival international du film de Cannes, dont le délégué général est tout naturellement Philippe Erlanger et dont le premier président est une autorité absolue en la matière puisqu'il s'agit tout simplement d'un des 2 inventeurs du cinéma, Louis Lumière en personne. Louis Lumière a été le premier président du tout premier Festival de Cannes. Alors, tout le monde joue le jeu, à commencer par les Américains, que l'idée a emballé, je vous l'ai dit. Pour vous donner un exemple, la MGM va jusqu'à affréter un transatlantique pour faire voyager tous ses représentants. Et voilà Tyrone Power, Gary Cooper, Norma Shearer, George Raft, etc., qui débarquent sur une croisette qui, à l'époque, était quand même une avenue de province bien tranquille, assez peu habituée à tout ce tohu-bohu hollywoodien. On avait installé sur le sommet du casino d'immenses lettres en néon, c'était la grande mode, toute nouvelle, pour annoncer ce festival. Un petit peu trop vite, sans doute, puisque la date fixée pour l'inauguration avait été choisie pour faire exprès concurrence à la Mostra de Venise. Ça devait être le 1er septembre 1939. Seulement, vous m'avez compris, ça tombe précisément 48 heures avant la déclaration officielle de la guerre. Autant dire que le festival de Cannes n'aura pas lieu, ou plus exactement, qu'il aura lieu, mais seulement après la guerre. Car avec la constance, la persévérance qu'il caractérise et qu'il mettra par ailleurs dans la conduite de ses autres travaux, Philippe Erlanger ne va pas laisser retomber sa belle idée. Dès 1945, il est affecté aux échanges artistiques du ministère des Affaires étrangères et il va reprendre son bâton de pèlerin. Le revoilà avec son idée de festival. Il est secondé cette fois par Robert Favre-Lebret qui par la suite s'identifiera pleinement au festival. Et voilà comment. Le 20 septembre 1946, devant les représentants de 20 nations, bravant une menace de grève générale et l'hostilité affichée de la presse de l'époque qui aurait préféré de loin un festival parisien, voilà comment est lancé, cette fois pour de bon, le festival de Cannes. Les projections à l'époque ont lieu dans le hall du casino, on en reparlera tout à l'heure, ça permet à certains d'entrer clandestinement, ce qui fait que le service d'ordre a le plus grand mal. Un jour on va aller jusqu'à expulser l'ambassadeur d'Angleterre qu'on a pris pour un fraudeur. Cette après-guerre, vous savez, c'est la grande époque, hein, c'est une belle époque pour le cinéma. Brève Rencontre, Rome, Ville ouverte, La Belle et la Bête, La bataille du Rail, tout ça est projeté au premier festival. Et on peut dire que dès cette première édition, le festival est un succès. Le nom de Cannes est cité d'un bout à l'autre du monde et pourtant, dès 1947, le ministère des Finances coupe les subventions. Ça va amener beaucoup de difficultés. On va y revenir avec mes invités dans un instant. On est à un stade où on s'interroge beaucoup. L'Italie est redevenue amie, évidemment. Donc, il est question pendant un temps d'organiser le Festival de Cannes en alternance avec la Mostra de Venise. Et puis, finalement, on se dit que l'un aura lieu au printemps et l'autre à l'automne. Après des années de grandes perturbations, pendant lesquelles on achève tout de même le premier palais des festivals, le palais Croisette, hein, qui va se maintenir jusqu'en 83, il va falloir attendre 51 pour que la situation soit vraiment stabilisée. En 55 est instituée la Palme d'Or. On verra à qui ont été remises les grandes palmes d'or mythiques du Festival de Cannes. En 59, le marché du film est créé. Ça, c'est fondamental. Ça change complètement la dimension de l'événement. En 62, la semaine de la critique. Bon, on peut dire que le reste appartient à une histoire à la fois très récente et très volatile. Nous y venons dans un instant en compagnie de mes invités.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Vous avouerez que pour parler d'un festival français du film, nous mettre...
La 20th Century Fox.
On a connu mieux quand même. Mais non, je me suis dit que ça faisait cinéma. Vous voyez, on est
dans l'ambiance. Mais vous avez bien raison.
Surtout,
vous avez bien
la fosse qui n'a jamais eu de prix à Cannes.
Et en plus.
En plus, voilà.
Donc, nous sommes en compagnie de deux invités qui connaissent cette affaire mieux que quiconque. Antoine Debecq a été le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et il est un grand spécialiste de toutes ces affaires. Et on ne présente pas Henri-Jean Servat, évidemment. Combien Henri-Jean, avez-vous... à combien de festivals avez-vous assisté, à peu près ?
J'ai dû en faire plus de 35.
Vous connaissez un petit peu la maison ?
Un peu.
Oui. Alors, justement, à quoi ressemble, parce que, après tout le monde n'est pas forcément familier de la géographie cannoise, on parle de la Croisette, on parle du palais, alors le nouveau palais des festivals, etc. Il faut expliquer un peu d'où tout ça est parti. On part du casino, initialement. C'est bien ça. C'est là qu'ont eu lieu les deux premiers festivals, en fait.
Voilà, qui était à l'endroit où il y a actuellement le nouveau palais.
Le nouveau palais.
On est d'accord, c'était le casino.
Mais vous savez,
on peut y va à Cannes. Oui. Enfin, je crois que j'en ai fait 35 parce que quand j'ai fait une école de journalisme et je demandais à faire des stages au Festival de Cannes. C'est pour ça. Je n'ai pas fait 35 comme journaliste. Mais on peut dire qu'on peut vivre sur 200 mètres carrés. Enfin, parce que nous sommes même pas sur une bande de 200 mètres carrés.
C'est tout en longueur.
Et même pas. Oui. On peut ne pas dépasser la rue qui est parallèle à la Croisette qui s'appelle la rue d'Antibes. Vous vivez entre le vieux palais, enfin, le vieux casino, nouveau palais, donc qui est au port, jusqu'au Palm Beach. Et vous ne pénétrez pas plus loin que la rue d'Antibes. Moi, j'avais la chance, comme j'étais pour Libération au Festival de Cannes. Et après, j'étais pour Paris Match. Et Paris Match m'installait, on entendait, ça s'appelle le Majestic. Ce qui fait que vous pouviez vivre pendant deux semaines, vous restiez deux jours avant, deux jours après, dans un espace qui était comme un koala. Je veux dire, qui s'installe sur son arbre et qui n'en bouge pas. Vous ne bougiez pas de aller passer le Carlton, c'était l'aventure. C'est ce que je veux dire. C'était, vous vivez pendant deux semaines dans un espace comme ça. C'était formidable. Alors, je veux pas jouer, enfin, je sais pas ce que va dire mon camarade, mais je veux pas jouer à la vieille bique pour laquelle c'était formidable auparavant. Mais le Festival de Cannes que j'ai connu au début, les festivals, c'était un enchantement absolu. Vous voyez Didier, par exemple, je me souviens de Morgan, qui présidait un jury, de Ingrid Bergman, qui présidait un jury. Les gens marchaient à pied sur la croisette, les gens allaient d'un hôtel l'autre, allaient d'un palace l'autre, marchaient, s'asseyaient à la terrasse d'un café qui s'appelait le Blue Bar, qui après a été en bas de l'ancien palais. Il y avait une atmosphère festive, sympathique et délicieuse qui maintenant n'existe absolument plus.
Et d'ailleurs, l'image qu'on a du festival, c'est d'abord et surtout cette image-là, c'est l'image qui est restée. Il y avait encore un côté quasiment famille, c'était à taille humaine. Aujourd'hui, c'est devenu quand même, il faut le dire, en grande partie un marché.
Ah oui, c'est devenu un marché où quiconque va à Cannes dans l'espoir de voir un acteur ou une actrice n'en verra jamais. Je veux dire, quand vous dites tout à l'heure que les photographes plus ou moins accrédités, vous ne marchez pas sur la croisette si on n'est pas le badge qu'il faut. Vous ne rentrez pas par les barrières. Si vous voulez rencontrer, faire rentrer une fiancée ou un fiancé, vous ne pouvez pas faire rentrer qui que ce soit. C'est extrêmement fliqué. Et auparavant, moi je me souviens, je peux raconter ma vie, mais quand j'étais au Festival de Cannes, j'allais pour cette école de journalisme, évidemment, je n'étais pas accrédité, j'avais rien du tout. J'avais un vague coupe-fil. Mais il fallait rentrer par les portes dérobées. J'ai fait les pires 400 coups au Festival de Cannes pour rentrer par les portes dérobées, rentrer dans les paniers de linge, je veux dire, au Carlton, pour avoir. Il n'y a pas qu'avec Greta Garbo, quand soi-disant elle devait rencontrer Visconti, enfin les rumeurs les plus folles.
Mais c'est ça, c'est que...
On était excités pour faire beaucoup, beaucoup de choses, mais maintenant c'est tellement sécurisé que c'est plus possible. Et puis après, je me tais parce que je laissais parler Antoine, qui était que moi je me souviens très au Festival de Cannes, à une époque où j'étais l'envoyé spécial de Paris Match, et ça aurait été un baudet, ça aurait été pareil. Vous aviez des déjeuners, que ce fût à la Croix, que ce fût à l'Eden Rock ou sur la plage, avec Clint Eastwood en tête à tête pendant une heure et demie, avec Tom Cruise de la même façon. Maintenant, c'est fini, vous voyez les gens en groupe de 7 ou de 8 pendant 5 minutes. C'est plus la même chose, ça n'a plus rien à voir.
Nous reviendrons vers la fin de l'émission sur ces évolutions, justement. Mais d'un mot, d'où vient ce changement et de quand date-t-il, d'après vous ?
Mais ça vient par, il y a un nombre de journalistes hallucinants. Vous savez qu'au début, ce que vous disiez tout à l'heure, vous savez qu'au début, quand le Festival de Cannes existait, c'était Georges Craven qui en était l'attaché de presse. C'est Georges Craven, il guettait, on suppliait les journalistes pour leur faire des papiers. Et Craven m'a raconté, avant qu'il ne décède, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point les journalistes ne voulaient pas descendre à Cannes, les journalistes ne voulaient pas écrire sur Cannes. Il y avait un malheureux entrefilé tous les trois jours. Et celui qui était responsable, pardon, c'est Mitterrand François, oui, qui était secrétaire d'État, qui inaugurait Cannes en 47 et en 48, il est venu deux fois de suite, il est venu après avec Bardot en retour du mariage de Grace Kelly. C'est lui qui a coupé les vives, qui trouvait que c'était anormal de donner 15 millions de francs à les manifestations, et c'est lui qui a fait des coupes sombres dans le budget du festival. Du coup, c'est le fameux festival qui n'a pas eu lieu de 48, c'était en raison des coupes sombres opérées par Mitterrand, qui était secrétaire d'État au budget.
C'est un peu l'épilogue à notre émission d'hier.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Camille Saint-Saëns sur Europe 1 avec un extrait d'Aquarium qui est tiré du Carnaval des animaux et qui sert de thème musical au Festival de Cannes.
Oui, Franck. Ça fait partie de l'image, de la signature. Alors nous reviendrons tout à l'heure sur les différents palais, sur cette géographie cannoise et sur les problèmes que posent les évolutions et l'afflux d'une meute de journalistes à nul autre pareil. J'aimerais, avec Antoine Debecq, qu'on évoque quand même les premiers grands succès, si je puis dire, cannois, qui passent par des récompenses très pertinente en quelque sorte, les grandes palmes d'or, disons-le, Antoine Debecq.
Ben disons que Cannes est à la fois, quand on regarde la liste des films primés, des palmes d'or, on voit se dessiner une histoire du cinéma, et en même temps aussi il y a des grands ratages. Il y a l'un et l'autre, quoi. Mm-hmm. Donc c'est aussi le, et je pense qu'il faut l'expliquer d'emblée, c'est aussi la manière dont on récompense les films à Cannes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et notamment toutes les années 50, il s'agit d'une diplomatie extrêmement discutée, une diplomatie de haut vol. C'est-à-dire que les films ne représentent pas qu'eux-mêmes, ils représentent des pays.
Des pays, c'est ça.
Et donc,
on est en
pleine guerre froide. Donc il y a forcément des équilibres à respecter. Et par exemple, la première édition de 46, il n'y avait pas encore de Palme d'Or. Chaque pays avait sa récompense. Donc comme ça, au moins, il n'y avait pas de problème. Et donc on a récompensé aussi bien Berlin, le film réaliste socialiste sur la prise de Berlin toute récente par les troupes soviétiques, que les Rome ville ouverte, que les films américains. Donc il y avait un palmarès à Cannes.
C'était un palmarès diplomatique.
Diplomatique, ouais. Discuté, où évidemment il ne faut pas froisser les susceptibilités des grands pays, des grandes cinématographies nationales. Donc forcément c'est ça aussi qui détermine un petit peu la liste des films qui sont primés.
On n'enferme pas la principale récompense dans le genre de la fiction. Du reste, je pense au Monde du silence de Cousteau, qui se trouve être récompensé. C'est une des premières.
Non, c'est vrai que l'idée du documentaire, et on l'a redit par exemple quand Michael Moore a eu sa Palme d'Or pour Fahrenheit il y a assez récemment, mais ce n'est peut-être pas la première fois qu'un documentaire était primé. Oui, le Monde du silence l'a été dans les années 50. Donc il y a à partir, je dirais, d'un certain moment une forme d'évolution qui fait que on passe d'un palmarès, je dirais, négocié diplomatiquement entre les grandes nations productrices à un palmarès qui est toujours négocié, hein. Un palmarès à Cannes, c'est toujours des affaires de négociation. Mais là, c'est plutôt à partir du milieu des années 50, ce sont plutôt les académiciens, en fait, qui ont la main sur le jury.
Hein, c'est
la figure majeure étant Jean Cocteau, un peu la figure majeure et qui va jouer un rôle important.
Qui est le grand homme du premier festival, en fait.
Pour prolonger ce que vient de dire Antoine et qui est très très juste, même avant, je veux dire, les récompenses étaient distribuées avant, c'est-à-dire que les gens n'envoyaient leurs films, les pays, que s'ils avaient l'assurance d'une récompense. Écoute, alors quand vous avez expliqué toute l'histoire de Cannes, mon cher Franck, il faut dire que c'est en fait la balance entre Biarritz, Cannes et Alger, c'est Cocteau qui a fait pencher la balance en faveur de Cannes, parce que pour la qualité des chants, parce qu'il avait ses habitudes dans la région, et il était tout à fait là-bas. Et encore une fois, pour prolonger ce que dit Antoine qui est très juste, c'est que dans les premiers jurys du festival de Cannes, il y a toute l'Académie française qui est là, il y a toute cette armada de vieilles mythes avec leur uniforme chamarré. Mais c'est gentil, je veux dire, mais ils ont 80, 85 ans. Vous pensez tous ces petits grands-pères, ils vont se chauffer sur là-bas, et on leur met, il y a une photo qui est hallucinante de jury avec Sophia Loren, hein, qui était la première femme présidente du jury, c'était Olivia de Havilland. Après, il y a eu Sophia Loren, puis Ingrid Bergman ou quoi. Sophia Loren, mais tout seins dehors et pointé vers le ciel, qui encadrait de petits grands-pères aux cheveux blancs, qui larga, qui sont, il y avait que la moyenne d'âge. Donc, mais ce que dire, c'était, ça veut dire que les films étaient extrêmement littéraires quand même. C'était, il y avait 10 grands-pères de 85 ans entourés d'une femme pulpeuse. Les photos, elles sont formidables, les photos du Festival de Cannes cette année-là.
Sophia Loren, qui est sur la couverture de votre ouvrage « Si le Festival de Cannes m'était compté », avec une préface de Monica Bellucci, c'est chez Philippe Aki, Paris Match.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Une émission consacrée aujourd'hui au Festival de Cannes. On vous retrouve, Franck, avec vos deux invités, le critique de cinéma, historien Antoine de Bec, mais aussi le journaliste et écrivain Henri-Jean Servat.
Henri-Jean Servat, dont j'ai sous les yeux la légende de Cannes. Ça se présente, c'est chez Assouline, ça se présente sous la forme d'un dictionnaire. Et alors, à la lettre P...
Qui avait préfacé à la main Isabelle Adjani. Je me permets de le dire pour lui rendre justice.
Tout à l'heure, c'était Monica Bellucci, là c'est Isabelle Adjani. Tout à l'heure, je vous ai surpris dans le couloir au téléphone avec Brigitte Bardot, ça ne s'invente pas. Vous êtes l'ami des stars.
Non. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé et j'aime beaucoup Brigitte. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Bien sûr.
J'ai une tendresse pour elle inouïe et j'ai fait une belle exposition à Boulogne sur Brigitte Bardot.
Bien sûr, oui.
Et une
très grand succès.
Qui va compter, qui va partir dans le monde. Mais je vais partir, je vais pas à Cannes cette année, aux États-Unis. On va faire une exposition de 35 photos sublimes de Brigitte. Ça me fait plaisir, cette reconnaissance que les Américains ont pour Brigitte et son combat pour les animaux. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et j'embrasse évidemment Bardot et Bernard, son mari.
Puisqu'on est sur Brigitte Bardot, continuons. Ça a été quand même, les arrivées de Brigitte Bardot sur la Croisette, ce sont les grands moments du festival.
Moi, j'ai pas vu l'arrivée de Bardot parce que c'était en 67, j'étais pas à Cannes, mais j'ai vu l'arrivée. J'ai vu Madonna sur la Croisette, j'ai vu Michael Jackson sur la Croisette. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi hystérique que l'arrivée de Brigitte en mai 67. Elle arrivait dans l'ancien palais, elle était avec Gunther Sachs, qui était son mari à l'époque, parce que Gunther Sachs avait produit un film sur les animaux.
Qui vient de mourir,
qui s'appelait Tarouk, et ce fameux film, il voulait le passer au festival, le festival marchandage, comme tout. Il y a marchandage pour tout. Il y a marchandage pour tout à Cannes. Le festival a accepté de passer le film de Gunther Sachs qu'il avait produit à condition que sa femme vînt avec lui et qu'elle l'accompagnât. Donc Brigitte l'a accompagnée, elle voulait pas le faire, ça lui plaisait pas du tout. Elle déteste Cannes qui pourrait être une foire, et elle a pas tout à fait tort d'ailleurs, et elle a accepté d'y aller. Donc finalement ils sont partis de la madrague de bonheur avec le costume noir, est-ce qu'on peut imaginer, le petit la vallée était très jolie en smoking de mec et l'hystérie, mais moi j'ai les images.
Ah oui,
elles sont à l'INA, les gens peuvent aller chercher sur internet voir les images de l'arrivée de Bardot. De mémoire de festivalier, on n'a jamais vu ça. Le service d'ordre des sécurités, il y avait un photographe de patch qui s'appelait Soher qui est passé
travers
les vitres,
qui s'est pas laissé déborder, mais enfin ça a été terrible.
Ah mais c'était insensé, ouais. C'était donc, et Bardot venait pour accompagner son mari et puis elle a remis une médaille ou un trophée à Michel Simon sur scène. Mais il faut regarder, que ceux qui nous écoutent, s'ils aiment Bardot, s'ils aiment le festival de Cannes, Brigitte n'aime pas le festival, mais regardez sur net, c'est inimaginable ce que c'est.
Au début,
il y a le présentateur de la télévision, il se fait valdinguer, il est sur les marches. Pouf!
Dès le milieu des années 50, la jeune Bardot est présente à Cannes, oui. Et elle est immortalisée, je dirais, presque en starlette, oui. par les traversos, qui sont les grands photographes du festival. Et elle est pieds nus sur la plage, comme ça, c'est quelque chose qui est extrêmement
frais.
Beau. Et on assiste vraiment à la naissance d'un personnage, la naissance d'une star. Elle est à cette époque très peu connue, elle commence à faire des unes de magazines de mode, mmh. Et elle n'a pas encore vraiment tourné de film, et elle est là déjà. Et donc Cannes est aussi intéressant pour ça, c'est vraiment une sorte de c'est une plaque sensible comme ça de je dirais de la notoriété, de la célébrité, mmh. Alors chacun a son quart d'heure de gloire, mais certains l'ont plus que d'autres, quoi. Et Bardot vraiment a marqué
vous parlez de cette dynastie des Traversos, hein, de cette dynastie de photographes. On va les appeler, on va appeler Gilles Traverso et on va l'avoir au téléphone s'il est là à l'instant, Henri Jean.
Non, je disais que Brigitte, en fait, au début, elle accompagnait son mari qui était Roger Vadim, qui était reporter pour Paris Match, et qui elle m'a raconté que sur la plage de Cannes, Vadim faisait des photos et des interviews de Leslie Caron, qui était noire à l'époque, et Brigitte se morfondait dans son coin en attendant que quelque chose se passe, quoi. Puis alors après, ça a été l'hystérie autour d'elle. Et je savais qu'à l'époque, elle était tellement agacée pour le festival et la façon qu'ils avaient de traiter cavalièrement les gens. Ce qu'il y a de bien, à Cannes, vous êtes une star un jour, le soir de votre film. Le lendemain, une autre star arrive. Vous n'existez plus. Je veux dire, à moins d'être dans le jury, De Niro, il va exister pendant 10 jours. Mais ça, vous n'existez plus. Vous existez le temps de votre film. Non, mais vous n'existez plus.
Guillaume, qui habite à Cannes, s'inscrit via Facebook, s'inscrit en faux contre ce que nous avons dit sur l'absence des stars. Il dit, moi, je suis cannois et chaque année, je croise des stars. Penélope Cruz, Pedro Almodovar, Vincent Cassel. Tout simplement en me promenant dans la rue, dit-il. C'est vrai que de temps en temps, les stars ont le droit d'aller faire des...
Avec ça, garder
le record. Ils sont pas accessibles.
Les autres, on a parlé de Brigitte Bardot, évidemment, le mythe absolu, mais il y a eu d'autres légendes. Gina Lolo Brigida, Sophia Loren, qui d'ailleurs, sur la couverture de ce livre, vous avez ajouté des petites étoiles, mais ce qui est étrange, c'est que quand on est à Cannes, on a l'impression que les étoiles, elles sont là.
Elles tombent comme ça. Elisabeth Taylor, une légende absolue sur la route.
Vous avez interviewé à Cannes, vous?
Ah oui, moi j'étais pour Libération d'ailleurs au Festival de Cannes et il y avait Elisabeth Taylor. En 87, elle sortait de sa cure à Rancho Mirage, elle avait George Hamilton pour fiancé, elle était carbonisée par les UV, coiffée artichaut éclaté par Alexandre, et elle arrive. Et la veille au soir, grâce à Pierre Calfon, auquel je rends hommage, qui était le distributeur de son film, il me l'a fait rencontrer, je veux dire. Et j'ai vu cette femme, j'ai fait la seule interview d'Elisabeth Taylor, mais c'était une hystérie, elle est arrivée, imaginez, c'était la génération Sida. Il y avait Elisabeth Taylor, la plus grande star du monde, qui arrivait à Cannes, c'était une hystérie absolue et totale. Moi, grâce à ça, je suis rentré à un match, Libération n'a pas voulu passer l'interview d'elle. Mais c'était une chose, elle avait...
C'est-à-dire qu'en fait, vous décrochez cette longue interview, et puis vous appelez Libé qui dit, oh ben non,
on m'a dit que ça ne les intéressait
pas.
Il va y avoir un vieux cinéaste, c'est pas néo-moldave.
Il faut quand même. C'est aussi l'histoire de Cannes. Parce que Cannes, c'est deux choses. Et il ne peut pas y avoir seulement une chose. C'est les stars, c'est les vedettes, c'est cette forme de chose à la fois pétillante et vulgaire, je dirais. Ouais. Et puis Cannes, c'est aussi les grands cinéastes. Et c'est absolument indispensable d'avoir les deux. Et c'est, je pense, ce qu'ont compris les gens qui ont bien dirigé le Festival de Cannes.
Je corrige le vulgaire par ostentatoire.
Voilà. Il faut avoir aussi bien, je dirais, Elisabeth Taylor que Visconti.
Exactement.
Il faut avoir aussi Antonioni. Cannes est une sorte de vitrine de la je dirais, du cinéma d'auteur, hein, une sorte de pointure du cinéma. Depuis c'est quelque chose qui s'est métamorphosé, qui a changé au milieu des années 50.
Mais l'un justifie et alimente l'autre, en quelque
Bien
sorte.
Bien sûr. Alors il faut absolument avoir les deux. Et il faut la montée des marches. Et en même temps, il faut des grands films, des beaux films.
Évidemment.
Et je dirais, pour un critique depuis une cinquantaine d'années, en fait, quand il va à Cannes en une dizaine de jours, il va voir les 20-30 films qui vont compter dans son année cinéphile. Et donc, c'est aussi ça, Cannes. Il faut cette vitrine-là.
Du fond et de la forme, de la recherche et du glamour. Alors, on parlait de Brigitte Bardot, bien on va l'écouter quelques instants.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira. Je suis en peine de quitter la mer et ma maison.
La Madrague de Brigitte Bardot sur Europe. Ah oui, on parle du Festival de Cannes. Aujourd'hui, on retrouve Franck avec ses invités qui continuent à discuter, hein, pendant les chansons, pendant les pubs. Et c'est dans un court instant sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Camille Saint-Saëns sur Europe 1 avec l'Aquarium, on ne se lasse pas de l'écouter. Je rappelle que c'est le thème musical du Festival de Cannes. J'en profite quelques secondes, Franck, pour signaler qu'Europe 1
Mais vous avez tout votre temps,
est partenaire du coffret Les plus belles musiques classiques du cinéma. C'est un coffret qui regroupe des musiques de films récents, comme Black Swan, Le Discours d'un roi, autant que les classiques du 7e art. Je pense à Barry Lyndon, Apocalypse Now ou encore Amadeus.
Je trouve que Europe 1 est particulièrement bien inspiré dans le choix des films avec lesquels nous sommes partenaires ces temps-ci, hein, du reste.
C'est vrai.
Alors, de l'Aquarium, nous passons sans transition au spa du Martinez où nous attend Gilles Traverso. Je vous avais promis que nous aurions Gilles Traverso au téléphone. Allô ?
Bonjour.
Vous m'entendez ?
Oui.
Voilà. Vous êtes l'auteur d'un livre, alors là je dois dire un album somptueux qui s'appelle Cannes Cinéma, édité par les Cahiers du Cinéma, où l'on voit justement toutes ces photos extraordinaires prises. Alors ce n'est pas vous qui avez fait toutes ces photos évidemment.
Ah ben non,
vous êtes photographe de père en fils chez les Traverso.
Eh oui, ça remonte depuis, l'histoire remonte même à mon arrière-grand-père.
Ah oui ?
Qui a créé, lui, en 1919 en tant que photographe. Et bien évidemment, dès 1939, le premier festival, il était
là pour accueillir les Américains, voilà. Dès 1939, en fait. Lui.
Voilà, dès 1939, il y a Louis Lumière qui était venu.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, ça a duré un jour, puis après, il y a eu un événement.
N'est-ce pas, qui a mis fin aux festivités.
Ils avaient bien en tête de le continuer, parce que dès 1946, il a repris avec autour de l'équipe, avec Jean Cocteau et Philippe Erlanger, qui ont dès 1946, qui ont relancé le Festival de Cannes.
Voilà, c'est ce que nous...
Et là, mon père était présent à ce moment-là.
Ce que nous voyons tout à l'heure. Alors, justement, votre père a fait des clichés incroyables. Ce qu'il y a de beau dans votre façon de photographier tous ces mythes, toutes ces légendes du cinéma, c'est qu'il y a à la fois énormément de glamour. Les photos ont l'air d'être comme ça, calées à la diable.
Alors qu'elles sont sur le vif.
Et puis, en même temps, elles sont très naturelles. On voit que ce sont des photos prises comme ça sur le vif. C'est tout un art.
Oui, mon père était un grand artiste, je trouve. Lui, il n'en était pas très conscient, mais moi, je trouve que lui, il savait saisir justement un instant qui rendait vachement bien en image, sans pour autant avoir fait toute une mise en scène au préalable. Quoi.
Alors, ça suppose dans votre cas, évidemment, vous étiez là avant tous les autres, mais ça suppose d'avoir toutes les accréditations nécessaires. Il faut se trouver au bon moment, au bon endroit, et généralement, ça ne dure pas longtemps, hein, le passage d'une star.
Non, là, le passage, là, dure, c'est assez rapide. En plus, maintenant, on a un peu plus de difficultés. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, il se promène un peu moins sur la croisette pour arriver à pour le lancement du guépard, ils avaient fait venir un guépard sur la plage.
Oui, on voit ça, c'est magnifique.
Ça serait assez difficile, à mon avis. Mais bon, bah, on essaye. Oui, effectivement, j'essaie d'être placé.
Alors, évidemment, l'organisation du festival a évolué. On va y venir dans un instant. Les stars sont toujours présentes, mais peut-être un peu moins visibles. Est-ce que le public aussi a changé?
Le public a grossi.
Oui.
C'est-à-dire que oui, il y a énormément, de plus en plus de monde. Bon, ben, c'est que l'engouement, le passage a été réussi. Si le festival était resté à l'ancien palais, avec toute la nostalgie que ça peut avoir, je pense qu'il n'aurait pas pris une ampleur telle qu'il a maintenant. Et donc le public vient de plus en plus nombreux.
Si vous deviez conserver un souvenir parmi tous ceux, j'imagine innombrables, que vous a laissé le festival, lequel choisiriez-vous, Gilles Traverseau?
Ah ben, en coup de cœur, c'est un petit peu la dernière séance de l'Ancien Palais en 82.
Ah oui.
Où effectivement était projeté E.T. et Spielberg qui venait. Effectivement, moi, les dernières images que j'ai faites à l'Ancien Palais des Festivals, je savais que c'était autre chose qui démarrait après, dès 83, c'était une autre, c'est toujours le festival, mais c'était autre chose, quoi.
Donc là, vous y êtes aujourd'hui, j'imagine que...
Et là, j'y suis, oui, oui.
vous attaquez dès ce soir, même sans doute depuis hier.
Oui, on a déjà démarré, là, ce matin, j'étais avec Gongli, j'attends avec impatience la montée de Robert De Niro. Mm-hmm. Parce que c'est une des stars que j'avais photographiées en premier, moi, dans les années 76-77. Donc, j'avoue que je suis assez impatient de le revoir sur les marches.
Vos premiers faits d'armes. Merci beaucoup, Gilles Traverseau. Les textes de ce très bel album sont signés de Serge Toubiana. J'ai l'impression, Antoine Debecq, qu'on regrette beaucoup ce premier palais des festivals qui a été fermé après le Festival 82, puisque en 83, on était déjà dans le nouveau, sur l'emplacement de l'ancien casino dont nous parlait Henri-Jean Servat tout à l'heure.
Oui, il y a qu'un effet d'empilement de nostalgie comme
mais
ça,
oui.
Puisque faut bien le dire que dans les années 60, on regrettait aussi les années 50, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a une césure très importante dans l'histoire du Festival de Cannes avec l'arrivée de ce qu'on appelle entre journalistes le bunker, qui dit quand même assez bien à quoi ressemble le nouveau palais, donc qui commence en 83 et je dirais que cette mutation, hein, on ne peut pas parler autrement du Festival de Cannes, c'est à la fois comme ça une géographie qui se déplace, mais ce nouveau palais, il a été fabriqué, il a été construit pour aussi accueillir un nouvel acteur qui va bouleverser le Festival de Cannes, qui est la télévision.
Et c'est ça.
Et c'est à partir des années 80, le festival change d'échelle, il change aussi de priorité, il change et tout ça, tout change avec cela, c'est-à-dire la sécurité, l'éloignement des stars qui viennent de plus en plus pour faire un petite interview pour la télévision, mais pas pour le reste. Et donc, la télévision va complètement prendre, d'une certaine manière, le pouvoir médiatique sur le Festival de Cannes. On est à un moment, c'est la création de Canal+.
C'est ce
qu'on appelle...
studio de Canal installé sur le...
Et donc, il y a vraiment une mutation du Festival de Cannes à partir de ce moment-là. Et je dirais, le bunker en parle. C'est vraiment un lieu qui est une sorte de palais de l'image, mais qui n'est plus le palais du cinéma, qui est vraiment le palais de ces images multiples qu'on pourrait dire de l'audiovisuel. Et là, vraiment, il y a une mutation.
Dans un instant, on revient sur ces évolutions bonnes et moins bonnes.
Franck Ferrand sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Cannes est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1.
Et nous étions juste, parce qu'évidemment on parle un peu entre deux, et nous étions en train d'évoquer quelqu'un qui nous était très cher et qui nous manque beaucoup ici sur l'antenne d'Europe 1, c'était notre ambassadeur d'Europe 1 sur la croisette, évidemment Jean-Claude Brialy, qui était en plus très drôle dans tous ces moments-là.
J'adorais, moi il m'a fait la préface d'un bouquin, et j'ai une bonne nouvelle pour vous dire, qui est que France Télévisions va faire un documentaire de 2 heures en prime time pour France 2 sur Jean-Claude Brialy.
Ah,
et
bravo,
je pense que je vais le faire. Voilà,
ah, bah alors très bonne nouvelle, bravo. Ça, c'est très bien. Alors, Cannes, nous disions que c'est aussi le lieu des scandales quand même. Il y a eu un certain nombre de remue-ménages, si l'on peut dire, Antoine Debecq.
Oui, Cannes adore ça aussi. C'est un lieu qui fabrique aussi ces scandales qui peuvent être liés à à des films qui provoquent des scandales. Il y en a un certain nombre, mais qui peuvent être aussi une sorte de reflet de l'actualité. Cannes est là aussi un lieu qui est très sensible. Oui. C'est une bulle.
Mai 68 voilà, à Cannes, ça prend des proportions
folles.
C'est
une bulle qui semble un peu autonome, mais en même temps l'actualité s'y introduit et provoque. Donc mai 68, l'interruption du festival de Cannes, le 18 mai 68, Truffaut, Godard qui descendent à Cannes et qui montent un peu une sorte de complot hein, pour mettre fin aux projections. Il faut dire que le festival voulait continuer comme si de rien n'était, alors que la France est en grève générale, toutes les corporations, tous les métiers ont arrêté le travail, et Truffaut prend la parole en disant qu'il trouve complètement grotesque que, alors que la France continue, les projets, que la France s'est arrêtée, le festival continuera. Et donc, il y a une sorte de coup de force, hein, c'est un coup de force, mené par un certain nombre de cinéastes qui, il faut dire, ils étaient déjà mobilisés par l'affaire Langlois, hein, qui, quelques mois plus tôt, les avait montés contre le pouvoir, contre le pouvoir de Malraux, le pouvoir de Favre-Lebray, qui est le directeur du festival. Et donc, il y a comme ça une sorte de coup de force qui met fin au festival, et c'est la seule fois, je dirais, dans l'histoire du festival. Mais ça a une conséquence importante, puisque c'est à partir de ce moment-là que vont se mettre en place, je dirais, toute une série de sélections parallèles. Par exemple, la quinzaine des réalisateurs naît, naît dès 69. Et ce sont ces sélections qui vont être très essentielles, je dirais, à l'histoire du Festival de Cannes, car elles vont permettre de révéler tout le nouveau cinéma. Hein, et Cannes va avoir aussi ce rôle-là à partir des années 60,
certaines
70.
Certaines palmes d'or ont été sifflées, même huées.
Bien sûr.
Ça me rappelle même moi-même de mauvais souvenirs. C'est toujours très désagréable.
Je ne m'aimais pas, mais je ne vous aime pas non plus. C'est Maurice Pialat en 86 pour sa palme d'or pour Sous le soleil de Satan. Ça faisait 20 ans que la France n'avait pas eu de palme d'or. Il n'y a pas eu tant que ça de palme d'or française. Il y en a eu 4 en tout et pour tout. Et donc Pialat monte avec une certaine fierté comme ça pour recevoir sa palme, et il est hué par la moitié de la salle à peu près. Et bon, Pialat, qui est une grande gueule, qui est un râleur, et en même temps qui a du chien, une forme, je dirais, d'élégance provocatrice comme ça, affronte ce brouhaha, et même il répond et le provoque et fait un bras d'honneur à
ceux qui le point
le point
le
Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une provocation, mais qui est bienvenue d'une certaine manière, parce que il faut aussi le public cannois parfois est insupportablement mal poli, je dirais met tous les films au même niveau. Je veux dire, quand Pialat, qui est un immense cinéaste à la Palme d'Or, le mieux est quand même de le respecter.
Je crois que c'est la façon de faire du festival, que tout est mis au même niveau, et ce qui est important un jour n'est plus important le lendemain ou il y a deux heures. Je pense qu'il y a à Cannes, il y a un cinéma de festival, un festival de cinéma, mais c'est aussi un cinéma de festival. Mais il y a beaucoup de gens disons le vrai public qui va au festival de Cannes, on conspue 8,5, on conspue l'Aventura, on conspue le Guépard, bien évidemment.
Merci beaucoup Henri-Jean Serval. La légende de Cannes, c'est chez Assouline, avec une préface d'Isabelle Adjani. C'est une sorte de dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. Nous parlions de Godard, vous êtes notamment son biographe chez Grasset, Antoine Debecq, Godard. Cannes Cinéma, c'est donc cet album des cahiers du cinéma de photographie des Traversos. Dans les coulisses de Cannes, de Jean-Pierre Bouixou, avec une préface de Brigitte Bardot. Ah, celle-là, c'est pas vous qui l'avez eue, c'est pour une fois, Henri-Jean. Et puis, j'en profite pour citer un ouvrage que j'ai oublié l'autre jour. Alors, j'ai horreur de faire ça parce que c'est un livre magnifique sur lequel je me suis pas mal appuyé pour mon récit. Et puis, vous savez ce que c'est dans le feu de l'émission. J'ai oublié de citer le film à la fin. Alors, j'essaie de me rattraper aujourd'hui. C'est aux éditions Toucan. L'ouvrage est de Christophe Dutrône. Ça s'appelle « Ils se sont battus mai-juin 40 ». Et ce sont des photos et des témoignages inédits de la bataille de France. C'est un livre particulièrement émouvant et particulièrement bien fait. Ils se sont battus mai-juin 40. C'est aux éditions Toucan. Merci de nous avoir fait rêver avec toutes ces stars et avec cette croisette inégalable. Et notre star à nous, c'est évidemment Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Pendant une heure, on va recevoir une vraie star, hein, une femme exceptionnelle et généreuse, une comédienne hors du commun et très aimée des Français. Annie Dupéret est avec nous pendant une heure. Avec elle, on va évoquer ses passions, son futur rôle de grand-mère, sa carrière au cinéma, au théâtre et ses succès d'écrivain. Alors, on vous attend évidemment en direct. Nous sommes en public au 39-21 pour tous vos témoignages. Si vous voulez vous adresser directement à Annie, on vous attend également. Et Faustine, Faustine.europe1.fr.
Vous savez, Faustine, que Henri-Jean Servat, qui est là assis à côté de moi, a une très belle chemise et qu'il tenait à vous le faire savoir.
Il a toujours des très belles chemises.
Elle me raconte qu'il y a toujours du mal de mes chemises provençales.
Pas du tout.
Pas des chemises provençales, ce sont les chemises camarguais de gardien de taureau qui déteste la corrida. Donc, ma chère Faustine, j'ai de très jolies chemises.
Vous avez de très jolies chemises, mais je ne me souviens même pas si j'ai pu dire quelque chose sur vos chemises. Donc, attention aux mauvaises langues.
Henri-Jean en a 500, il me l'a dit. 500 chemises.
Et moi, je les trouve très gaies.
Voilà, très bien.
Merci, Faustine. À demain.
À demain.